Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Les résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH5 et de la 2e enquête harmonisée sur des conditions de vie des ménages sont connus. Les résultats issus de ces deux opérations mettent en évidence des progrès réalisés par le Togo dans les domaines démographiques et socio-économiques. Sur le plan démographique, la population résidente du Togo s'établit à 8 095 498 habitants selon le RGPH5 de 2022, dont 51,3% de femmes. L'une des principales caractéristiques de la population togolaise est sa jeunesse, avec un âge moyen ressorti à 23,4 ans et une proportion de 42% de la population correspondant aux jeunes de moins de 15 ans. Néanmoins, le taux d'accroissement annuel moyen a connu une légère baisse, passant de 2,9% en 2010 à 2,3% en 2022. En matière d'accès aux services sociaux de base, les résultats indiquent une amélioration, avec 83% de ménages ayant accès à une source d'eau améliorée. Quant à l'accès de l'électricité, il s'établit à 70,3% des ménages, avec une proportion de 9 ménages sur 10 en milieu urbain contre 5 ménages sur 10 en milieu rural, soulignant ainsi les résultats d'extension de l'accès à l'électricité dans les zones rurales. Que retenir de ces résultats et quelle est son utilité pour le développement de notre pays? Je poserai la question à mes confrères journalistes en studio avec moi et nous aborderons d'autres sujets liés à l'actualité dans cette émission Club de la Presse de ce mardi 17 décembre 2024. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Itek aussi d'Ativi assure la mise en onde. Jérôme Dakoutia est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Neho, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. C'est toujours un privilège pour nous de savoir que vous êtes aussi très nombreux à nous suivre dans le monde entier grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. De la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi, du monde entier. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, Eric Pakoudjo-Diosson. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers confrères, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
Eric, j'espère que vous allez bien.
Je vais très bien, mais... Je vais profiter de l'occasion pour dire toutes mes condoléances à mon frère Jean Johnson, morguier, et qui a perdu sa femme le dimanche. C'est un coup dur pour lui. Et je lui dis beaucoup de courage.
Beaucoup de courage à lui, vraiment. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Adam Andronou.
C'est moi.
Adam Andronou, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour auditeur de la 93.5, la radio de la nouvelle génération.
J'espère que tu vas bien, Adam.
Par la grâce de Dieu, ça va.
D'accord, Dieu merci. Jean-Baptiste Atissot, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Nous avons... la grâce d'être en vie aujourd'hui.
C'est l'essentiel.
Oui, on rend grâce au Seigneur.
Et hier aussi, nous avons bénéficié de cette grâce. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu, puisque notre espérance est que nous aurons toujours cette grâce de vie.
Oui, absolument.
Ou bien. D'accord, merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est avec plaisir.
Voilà, il est là, il est aujourd'hui avec nous. Et Claude Assiobotis. Claude, bonjour.
Bonjour.
Le mardi dernier, cette voix nous a manqué.
Oui, indépendamment de ma volonté.
Tout à fait, indépendamment vraiment de votre volonté. Puisque nous l'avons annoncé le mardi dernier en début d'émission, que normalement Assem Kofivi devait être avec nous, Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais ce n'est qu'une partie remise.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
D'accord. Alors, Claude, c'est vrai, vous êtes toujours avec nous dans cette émission chaque mardi. C'est pour parler de la littérature, puisque vous êtes critique littéraire, aussi écrivain. Vous êtes aussi conseiller littéraire. Nous avons commencé cette aventure depuis un temps, cette aventure que nous dénommons même la bibliothèque animée. Et dans la logique alors de notre axe thématique histoire et littérature, nous allons aborder aujourd'hui un livre, c'est « La guerre civile des Apoutagas ». Et quand on parle alors de cet ouvrage, ceux qui sont des mordus de la littérature peuvent avoir déjà une idée. C'est bien sûr signé à Pedo Ama Togwata, qu'on ne présente plus. Mais Claude, je vous demanderai alors de nous présenter brièvement, professeur à Pedo Ama.
Oui, vous avez dit qu'on ne le présente plus, mais je le présente. C'est avant tout un universitaire. Hein. Et il a enseigné surtout le théâtre, donc la littérature à l'université, jusqu'à sa retraite. Et il fait partie de ceux qui, au Togo, sont venus plus tard à la production de la fiction après l'avoir enseigné. Hein. Et ce recul peut-être leur a permis de ne pas être de simples amateurs, de se servir de leur regard distant et de professionnels de la chose, hein, pour s'en servir dans leur production littéraire, hein, de fiction. Voilà. Mmh. Et je crois que l'une de ces productions, c'est justement l'œuvre qui est le sujet de notre jour, qui est le sujet du jour, c'est la guerre civile des Apoutagas.
Alors Claude, la guerre civile des Apoutagas, il y a eu vraiment une guerre dans l'histoire du Togo, ainsi, c'est comme ça?
Pas du Togo en réalité. Le Togo n'était pas encore né, hein. Le Togo est né vraiment le 27 avril 1960. Après l'accouchement raté qu'on a appelé le Togo allemand, mais la guerre civile dont il s'agit dans cette œuvre, c'est une guerre civile qui a eu dans le royaume de Gledi, qu'on appelle le Guéni, hein, et je ne sais pas si je prononce bien, c'était un royaume qui avait connu un essor au XVIIIe siècle, qui s'étendait à l'époque de Keta, à l'ouest, jusqu'au Moro, à Grand Popo. Hein, c'est là où il y a eu cette guerre civile-là. Voilà. Je crois qu'il faut distinguer les deux. Et aujourd'hui, en errant surtout dans le Togo, mais à l'époque, le Togo n'était pas encore né. Voilà.
D'accord. Alors, en quoi l'œuvre d'Apedo Ama peut être considérée comme un document historique?
Document historique, oui et non, hein. Oui, parce que si on se réfère au livre même, dans la présentation du cadre et des personnages, je peux ouvrir le livre, on nous dit par exemple que les événements se déroulent vers le milieu du 19e siècle à Nero et Gledi, la capitale du royaume Guin. Bon, ça c'est purement historique. Et puis, il y a les personnages. Il y a le roi des guerres, on n'a pas nommé, mais on peut penser à Siogbon, à Déou, à Folie Bébé. Et Kwame Dessou, ça c'est connu, c'est le roi des Adigos, hein, c'est bien connu. Et sa femme Arliba, je ne sais pas si elle s'appelle vraiment Arliba. Il y a Laté Ahuanwoto, hein, qui est aussi bien connu. Et donc c'est des personnages historiques. Il y a aussi Chacha qui est un personnage historique qu'on va retrouver à Kanyalem. Mais le personnage central du livre, c'est une pièce de théâtre. Le personnage central même, dont le nom est Agbo Dromakankou, est une pure est sorti directement de l'imagination, je crois, de l'auteur.
De l'auteur.
Hein, c'est une invention. Et alors, ce qu'on peut dire, avoir ce personnage central, on peut dire que ce n'est pas une œuvre historique, enfin, ce n'est pas un document historique. Hein, ce n'est pas un document seulement, ou disons que ce n'est pas seulement un document historique.
Voilà.
L'intention de l'auteur n'est pas de reconstituer le passé des guerres, c'est une œuvre d'art. Hein, l'auteur veut se servir de ce décor historique, s'en inspirer et surtout le dépasser, hein, à d'autres fins. Par exemple, à des fins d'approfondissement, hein, pour l'enseignement, un certain enseignement de la psychologie, une certaine fouille psychologique, hein, fouille de psychologie devant le lecteur. Hein, on peut dire qu'à des fins, même sociales, hein, veut enseigner quelque chose sur la société, même à des fins philosophiques, poétiques, tout ce que vous voulez. Si vous prenez le livre même, c'est marqué là-dessus, tragédie. Hein, c'est quoi une tragédie? Bon, je crois que c'est, ça fait partie des genres du théâtre où l'homme est en lutte avec des forces supérieures. Une force supérieure. Hein. Alors, et avant le personnage central dont je viens de prononcer le nom, qui ressemble même à une incantation, hein, Agbo Dromakankou. Hein,
et une incantation, vraiment.
On dirait que c'est une épopée, hein, c'est le livre, c'est une sorte d'épopée. C'est un genre qui invite, dans des situations tragiques, le lecteur à s'élever et à être porteur de valeurs au nom de l'intérêt général, de l'humanité, et au nom de l'humanité qui porte en lui, chaque homme porte en lui, comme le dit Montaigne, l'entière humanité. Hein. Et au résumé de la page 4, hein, de la couverture, si je peux me servir de deux symboles pour mieux vous expliquer l'intention, je crois que c'est très schématique, hein, mais le temps qui nous est imparti nous oblige à cette économie-là.
Tout à fait.
L'or et l'œuf dont l'auteur parle. Hein, l'or, d'abord l'or. On lit dans ce résumé à la quatrième page de couverture, c'est le héros qui parle. Il dit, il est question de l'avenir d'un peuple, de la liberté d'un pays. Et vous, ne cessez de parler d'or. Et lui s'empare des cassettes qui se contiennent ce temps-là et les jette et éparpille le contenu. L'or, vous savez ce que c'est.
Oui.
Hein, l'or, aujourd'hui, c'est le malheur même du Togo, je dirais, du Togo actuel.
Comment ça,
l'or,
le malheur du Togo?
C'est le symbole des richesses matérielles. Et vous allez voir que nos querelles politiques, franchement, se sont centrées autour des intérêts matériels. Hein, des divisions, c'est souvent des intérês matériels. Et c'est le malheur de toute l'Afrique entière. Et aujourd'hui même, c'est le malheur du monde, dans lequel nous vivons.
Le monde entier.
Le monde entier, vous voyez. Donc, ce n'est pas une pièce qui peut à réduire à une localité, c'est toute une eau philosophique qui parle à tous les hommes.
D'accord.
Et l'œuf, voilà, dont on parle ici, c'est le symbole d'une vie fragile et silencieuse, mais que tout homme, tout citoyen doit sauver, et c'est encore le symbole de l'humanité que tout homme doit sauver.
D'accord.
Bon, on peut revenir sur l'œuvre et la faire découvrir encore un peu plus dans sa fiction, hein, dans sa fiction, dans l'histoire fictive, mais en croisant peut-être ça avec l'histoire réelle. Hein.
D'accord. Voilà. Eric, une question pour Claude?
Peut-être appuyer ce qu'il a dit par rapport à professeur Apedo Toguata Aman, qui depuis toujours est devenu une référence dans la littérature togolaise. Et je crois que c'est un monsieur qui continue pas mener des recherches et qui n'hésite pas, malgré sa retraite dont parlait Claude tantôt, il continue par enseigner, par discuter. Il aime beaucoup discuter avec les gens. Mais il a un défaut, ou je peux dire plutôt une qualité, c'est le paradoxe de l'homme, que professeur Apedoma ne te donne pas rendez-vous à 10h, que tu viennes à 10h02. Il est déjà parti. Ah oui.
Mais ça, c'est une qualité.
Connaissant nos réalités. Parfois, parfois nous venons ici en retard, indépendamment de notre volonté. Ça peut arriver, mais professeur Amand, il est tellement ponctuel qu'il n'accepte pas les retards. J'avoue que j'ai eu personnellement. il m'a donné rendez-vous quelque part. Je devais le rencontrer. On devait discuter sur une œuvre, justement. Et dans la foulée, il m'a envoyé la géolocalisation et j'étais arrivé. Je tournais. Je n'arrivais pas à reconnaître effectivement le lieu. Le temps d'arriver, on me montre sa voiture qui est en train de démarrer là. Je dis, mais. Je l'appelle, il dit, je t'ai attendu.
L'heure, c'est l'heure.
Donc, c'est un monsieur très rigoureux et très méthodique. J'insiste là-dessus parce que quand professeur Apedo Amand commence par t'enseigner ou t'expliquer quelque chose, c'est avec la méthode pour que tu puisses comprendre.
Tout à fait.
Et je crois que c'est ce qui se reflète dans la majorité de ces œuvres comme la guerre civile
des
Apoutaga.
D'accord, merci. Eric, Jean-Baptiste.
D'accord. Il passe.
Voilà, et Adam.
Adam aussi passe.
D'accord. nous sommes rejoints par le doyen.
Il ne va pas passer.
Isidore, bonjour.
Ça, vous voulez que je libère le plancher?
Non, pas ça. On a besoin encore de tes expériences.
Non, en fait, Apedoma, il est particulier. C'est l'une des rares critiques littéraires qui produit aussi des œuvres, des ouvrages. C'est rare de les trouver. Enseignant de littérature moderne, si je me trompe.
Théâtre.
Oui, non, ça c'est des choses. Non,
il fait aussi le récit. Hein.
Il est dense. Le monsieur est dense.
Tout à fait.
Et c'est une référence, mais simple aussi. Ça, il faut le reconnaître. Je n'ai pas parcouru, mais je sais de quoi il est question. C'est la guerre entre les Akagans et les Atigo. C'est la guerre entre les Akagans et les Adigo, les Lawson et les Adigo. Bon, Lawson, le roi de Lawson, c'est le dernier royaume à s'installer sur la côte, mais qui a des hégémonies, voulait tout prendre et ont été armés par Tchatcha. De Souza, peut-être, il ne l'a pas dit.
Oui, il en a parlé.
D'accord.
Et avec les Tchakavim là, à l'époque, les fusils, ils ont su gagner cette guerre tribale et les Adigo se sont repliés à Agoué. Voilà l'histoire. Ce que je peux ajouter au récit.
D'accord, merci beaucoup. Oui, Claude.
Oui, je rappelle que nous sommes dans l'axe. C'est l'axe thématique.
Tout à fait.
Où nous voulons croiser la fiction avec l'histoire historique avec l'histoire fictive. Je crois que nous sommes dans cette mouvance-là. Donc, deux œuvres qui vont s'apparenter, qui seront dans ce créneau-là, nous allons les aborder.
Tout à fait.
Et nous pouvons même inviter les auditeurs à nous indiquer certaines œuvres. Qui sont dans cette mouvance,
dans ce schéma
et dans ce schéma là, Ça nous ferait plaisir.
Voilà. Et Claude, il faut annoncer quand même que, à la fin même d'ailleurs de ces ouvrages, nous envisageons toujours inviter l'auteur, même ici en studio, pour qu'on discute également alors de son œuvre, après que vous ayez fait même d'ailleurs de chroniques autour de ses œuvres.
Oui, c'est ça qui est bien.
C'est, ça que ça c'est pour cela même d'ailleurs que nous avons invité Assem Kofidi la dernière fois.
Oui. Et Apedoma viendra nous expliquer
tout à fait
ce qu'il Kassou Agbodro Makankou.
Voilà.
Et un rappel, tous les élèves qui vont lire ces œuvres, parce que c'est un programme, il ne faut pas la réduire à la guerre entre les Akagbans et les Adigos. Mmh. Ce n'est qu'un prétexte.
D'accord.
Pour parler de l'homme en général.
D'accord. Merci. Ça c'est. Il y a un lieu symbolique. Fantécom, et quand vous allez à Nérode, demandez d'après Fantécom, et c'est toute une histoire. C'est là où même c'est déclaré.
Fantécom.
C'est là-bas.
D'accord. Merci beaucoup.
Il y a même une chanson. Fantécom, et Gourou, Arwade, la Devila.
Merci. Je l'ai dit. Vous êtes voyant. Merci beaucoup, Claude, d'être passé dans cette émission. À la prochaine, bien sûr. On se retrouve justement le mardi prochain pour une autre chronique littéraire. Alors, chers confrères, nous revenons en studio et pour parler alors de l'actualité, débattre de l'actualité comme nous aimons bien le faire ici au Club de la Presse. Oui, dans l'actualité, il y a toujours ce drame qui s'est produit le vendredi dernier à Gwezongo, qui continue quand même d'alimenter l'actualité. Il y a le journal Le Correcteur qui est revenu sur le sujet ce matin. Le Correcteur qui écrit « Togo, pays tout risque, après les immeubles, une passerelle fait plusieurs morts ». Un audit s'impose à Agbata, à Sigamé, lycée à Détikopé. Eric, oui, on a appris tous ensemble l'information, on en a débattu hier, largement même ici au Club de la Presse, mais quand on parle alors de cette passerelle qui a été percutée même d'ailleurs, où la plateforme supérieure a été percutée par un camion citerne et finalement qui a fait 8 morts et 3 blessés, et je pense quand même que c'est des morts et non pour le pays.
Oui, je profiterai de l'occasion quand même pour présenter toutes nos condoléances aux familles éplorées. Et je prierai, comme tout Togolais, pour que ceux qui sont encore, ceux qui sont blessés et qui se retrouvent encore à l'hôpital, puisque leur vie se trouve entre les mains de Dieu actuellement, parce que c'est des blessés graves, et je prierai pour qu'ils retrouvent leur santé et qu'ils aillent chez eux à la maison. Oui, un drame qui, ma foi, a encore bouleversé le pays, parce que nous aspirons aujourd'hui à une paix, à un développement et tout. Mais quand des drames de ce type arrivent, je crois que tout le monde est touché. Ce n'est pas une question d'un parent qui est touché, mais c'est toutes les familles togolaises qui sont touchées par ce drame. Oui, et je pense que tout le monde a eu, dès que le drame s'est produit, a condamné tout de suite l'entrepreneur qui a érigé cette passerelle-là, parce que le travail n'est pas abouti. Le travail n'est pas fini, parce qu'on ne peut pas. C'est de cette façon que ces passerelles se construisent, bien sûr. Et malheureusement, quand on met
la plateforme
sur les supports, il faut forcément les cadrer. Il faut le cadrer de façon à ce que rien ne puisse le faire tomber. Malheureusement, c'est ce qu'on a eu. Quand vous y allez, vous allez remarquer qu'il y a cette partie sud qui est bien mise, mais l'autre partie, il n'y a rien qui cale la palette. Et là, forcément, quand quelque chose vient toucher cette palette-là, elle tombe. Et voilà ce qui s'est passé. De l'autre côté, il y a également le camionneur qui n'a pas respecté les consignes hein, de la route. Il y a, tout le monde a parlé de l'acte 14 de la CDAO
de
l'UMOA, règlement 14 de l'UMOA qui a demandé de respecter la charge à l'essieu.
Tout à fait.
Ce qui n'a pas été fait. Voyez la citerne qui a une certaine hauteur. On vient la mettre sur une plateforme qui a également une certaine hauteur. Et là, ensemble, ça dépasse les 5,20 m ou 5,50 m
oui.
qui est exigé. Et là, ça, le chauffeur, sachant cela, devait normalement arriver à ce niveau, s'arrêter. Là, il a continué tout comme si de rien n'était, tout comme si il était dans les normes, et ça a percuté la palette qui est tombée. Et malheureusement, ça a fait des morts gratuites. Je crois que c'est l'occasion pour nous tous. Lorsque nous voyons de ces choses-là, que nous réagissions très rapidement. C'est une question de citoyenneté. Il ne faudrait pas qu'on attende le drame avant de réagir. Et dites-vous, à ce niveau-là, généralement, il y a des forces de sécurité et d'ordre. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Et ce jour-là, il n'y avait personne. Et donc, je crois que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous devons déjà commencer dénoncer de ces attitudes-là.
D'accord. Alors, Jean-Baptiste, est-ce que 8 morts, ce n'est pas déjà de trop pour qu'on décrète un deuil national?
Vous l'avez si bien dit. Bien, on est dans un pays où c'est lorsque ça plaît qu'on agit. Et normalement, avec ce qui s'est arrivé vendredi dernier, cela mérite qu'un deuil national soit décrété. Mais peut-être n'eût été la médiatisation à outrance, le gouvernement n'allait même pas réagir face à ce drame. Mais bon, Dieu merci.
Est-ce que le gouvernement réagit?
Oui, hier il y a eu un conseil des ministres où le sujet a été évoqué. On rend grâce à Dieu. Mais l'acte, même en soi, ce qui était arrivé, l'accident même qui est arrivé, témoigne une fois de plus la gestion approximative que les autorités sont en train de faire de ce pays-là. Parce que si on a les yeux rivés sur la gestion qui est faite du pays, je crois que les travaux publics qui sont exécutés doivent être suivis de façon minutieuse. Mais on ne voit pas cela. Les routes qui sont construites avec des délais de vie, peut-être si c'est 20 ans, à peine comme l'entrepreneur finit le travail, qu'on commence par avoir des nids de poules sur les routes, les établissements qui sont construits et à peine terminés, c'est les toits qui commencent par couler, etc. Donc tout ça montre une fois encore la gestion hasardeuse du pays. Et ça prouve à suffisance que la corruption atteint un degré, je ne sais pas comment l'exprimer. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'un camion citerne va heurter une passerelle et puis la passerelle va se dégringoler comme ça et tuer 8 personnes. Je crois que ça relève de l'imposture ou bien de la fragilité de la gouvernance qui a lieu dans notre pays. Moi, j'ai eu la chance pour la première fois de voir ce qu'on appelle passerelle en 2012 à Addis Abeba, lors d'un séjour là-bas. J'ai vu ce qu'on appelle passerelle.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle par passerelle?
Alors,
est-ce que nous avons ici, ce n'est pas de la passerelle?
Ça veut dire que c'était bien construit, de telle sorte que quand vous marchez là-dessus, vous n'aurez à quoi que ce soit. Mais ce que nous avons ici là, quand tu veux monter,
tu auras, comment on appelle, ce n'est pas de, tu ne seras pas à l'aise en montant sur cette passerelle. Tu ne seras pas du tout à l'aise.
D'accord. D'accord. Adam, est-ce que déjà ce drame qui s'est produit ne repose pas la question de la qualité de nos infrastructures?
Absolument, absolument. Parce que je pense que c'est cet aspect-là même qui est indexé, première vue, sur la population lambda, lorsqu'un ouvrage, en tout cas, est confectionné, elle veut voir l'ouvrage résister dans le temps. Et lorsqu'on dit bon, que l'ouvrage n'est pas totalement réceptionné et que drame s'en est suivi, il y a de quoi s'interroger et interroger véritablement donc à la qualité. C'est vrai que au regard, Eric l'a dit tantôt, il a parlé du tablier et du plié qui constituait donc l'assemblage. Et c'est vrai, on dit qu'on ne maîtrise pas encore trop la question du pilier, puisque les techniciens nous disent qu'actuellement, pour éviter à ce que les voies soient pendant longtemps être occupées, donc on détache en réalité le pilier qui devait être posé pour en faire, en tout cas, un ouvrage homogène qu'il est donc fabriqué, préfabriqué, et qu'on vient donc poser. Maintenant, il faudrait quand même qu'on ait des cas qui puissent permettre donc de pouvoir... Ce qui n'a pas été le cas, ça se fait, c'est pas seulement au Togo qu'on ait donc des piliers détachés ou fabriqués qu'on vient donc poser. Donc voilà pourquoi il était nécessaire donc de pouvoir aller vers des audits, questionner certaines solutions pour éviter à ce que demain, qu'on puisse véritablement, lorsqu'on parle d'ouvrage, c'est vrai, bon, il a expliqué tout à l'heure le cas du camionneur, puisque de toute façon, on se dit il y avait l'imprudence du camionneur. Vous savez, le règlement 14.
Et lui-même, il a perdu aussi sa vie.
Voilà, mais le règlement 14, je ne pense pas que cela puisse être un aspect qui soit concerné, puisqu'on parle de camion citerne. Et lorsque vous les prenez en réalité, ce sont des structures qui sont assez regardants. Ça dit que lorsqu'on parle de hors gabarit de ce camion, bon, ce qui est évident, hein, puisque vous savez, avant les passerelles, vous allez constater qu'il y a, je pense, que des cases qui permettent en réalité de pouvoir identifier si vous êtes hors gabarit. Donc, en réalité, l'hors gabarit ne doit pas concerner les camions citernes. Malheureusement, ça a été le cas dont on s'est interrogé énormément, mais bon, de toutes les façons, qu'ils soient étrangers ou togolais, ce n'est pas sa première fois de pouvoir donc passer, mais s'il est étranger, ça vous a dit quelque part que la hauteur, le dimensionnement également est à questionner, au-delà de tout. Le dimensionnement est à questionner. Puisque quel que soit le cas, même si le camion citerne venait donc à dépasser la gabarit, parce qu'il a parlé de là où est posé le citerne du camion, qui aurait pu donc permettre à ce qu'on donc en arrive à se dépasser, mais on ne peut pas quand même dépasser jusqu'à à ce que le citerne vient heurter dans le pilier pour donc s'encrouler. Donc je pense que tous ces aspects-là, c'est à cela que je suis d'accord avec vous lorsque vous questionnez la qualité de l'ouvrage et le dimensionnement. Est-ce que tout ceci, est-ce que quelque part, c'est pas la corruption qui est passée par là? Est-ce qu'on nous a proposé les bons dimensionnements? Parce que je pense que lorsqu'on parle de passerelle, on n'est pas, en tout cas, ne sommes pas au Togo. En tout cas, ceux qui ne sont pas les premiers à le faire, il y en a partout, et ça a des dimensions données, mais aller jusqu'à un camion citerne, je pense qu'il y a de quoi interroger la qualité de
d'accord.
Ce
travail. D'accord. Isidore, nous avons encore d'autres passerelles sur le territoire, surtout dans la capitale, Lomé, ici, et comme le journal Le Correcteur le proposait, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il ne faille pas aller vers un audit qui, justement, doit s'imposer à Agbata, à Sigamé, Lycée, à Détikopé, et tout cela pour voir exactement la qualité de ces ouvrages.
Bien évidemment, puisque l'accident est survenu avec mort d'homme. Et c'est ça qui nous a alerté, a metté tout le monde. Mais au-delà de l'ouvrage qui est mal fait, en principe, il doit avoir des signalisations. Il y a une barre qu'on met souvent.
Tout à fait.
Avant d'accéder
devant la passerelle. Devant d'autres passerelles, il y en a.
Il y en a. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas sur le tronçon national numéro 1? Pourquoi pas? On ne l'a pas vu. en commençant par le lycée, il n'y en a pas. Vous continuez, il n'y en a pas. Tout le long. Voilà la situation. Donc peut-être, comme le disait tantôt, la corruption est passée par là. Je ne saurais le dire, je n'en ai aucune preuve. Mais on ne peut pas faire ce genre d'ouvrage sans avoir des signalisations et à l'avance. C'est ça le problème. Mais au-delà, on oublie que c'est le camionneur qui est en faute. Ça, on ne le dit pas souvent. Vous savez que vous ne pouvez pas dépasser, votre gabarit ne peut pas passer sous cette passerelle.
Et vous forcez.
Et vous forcez. Mais, qu'à cela ne tienne, l'ouvrage n'était pas construit pour que les véhicules passent dessus. Si c'était des piétons qui passaient, ça s'est effondré, on va se poser beaucoup de questions. Mais qu'un véhicule vienne tamponner et l'ouvrage et que ça cède, c'est aussi un autre problème. Il faut se poser la question. Qui est l'auteur? Qui est l'auteur de ce drame? C'est le camionneur. Je ne parle pas du chauffeur. Le chauffeur n'est qu'un exécutant. Le camionneur et l'entreprise qui a convoyé la citerne, sachant très bien que cette citerne ne peut pas passer en dessous de cette passerelle. C'est la vraie question que nous devons nous poser. Et questionner aussi les autres ouvrages, comme les confrères l'ont dit, auditer tout ce qui se passe. Mais je mets au défi le gouvernement togolais pour pouvoir faire ces audits-là. Je ne le pense pas. Parce qu'on n'a jamais réceptionné des ouvrages au Togo. Vous voyez le boulevard, hein? Non, le boulevard qui passe ici, là, derrière nous, ici. Le boulevard circulaire. Boulevard circulaire.
Oui, 13 janvier, non?
Non, 13 janvier, c'est l'autre.
C'est l'autre, voilà, justement.
Boulevard circulaire,
voilà.
Mais est-ce que l'ouvrage a été réceptionné? Je ne le pense pas. Si tel est le cas, il n'y aura pas de stagnation d'eau quand il y a une petite pluie au niveau de la BTCI, au niveau du commissariat central. Est-ce que nos ouvrages ont été confectionnés dans les règles de l'art? Je ne le pense pas. Vous prenez la bitume de Lyon. Est-ce que ça a été réceptionné? Mais c'est la vraie question qui se posait. Et que font les bureaux de contrôle? Mais c'est ça la vraie question qui se posait.
D'accord.
À travers ce qui s'est passé, on déplore des morts d'hommes et le gouvernement. Et depuis, quand vous lisez le communiqué est d'une vacuité. À se poser la question, on n'a même pas demandé de faire des enquêtes pour nous situer sur les responsabilités des uns et des autres. Je ne sais pas si...
Enquête.
Voilà, là, d'accord.
Le conseil des ministres a demandé une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident et de l'effondrement de la passerelle.
Et c'est à posteriori. Le ministre avait déjà pondu un communiqué.
Mais le ministre, c'est pour situer, enfin, c'est pour donner l'état des lieux de la situation.
Un gouvernement ne fonctionne pas comme ça. Je suis désolé.
D'accord. Alors, on va quitter le sujet. On s'intéresse à un autre sujet. Je vais évoquer ce sujet. Alors, au début, alors de mes propos, hein, pour mes mots introductifs, c'est par rapport au résultat alors du 5e recensement général, bien sûr, de la population et de l'habitat. Alors, il y a le journal Le Médium qui est revenu sur le sujet et qui écrit Togo résultat RGPH5 et EHCV. M2, des dynamiques intéressantes sur le plan démographique et socio-économique. Et le journal écrit aussi « Société, la femme togolaise, pilier central du développement national ». Eric, vous êtes revenu aussi sur le sujet, vous écrivez « RGPH5 et EHCVM2, les résultats et indicateurs qui changent tout pour le Togo ».
Oui, effectivement, c'est en 2022 que le Togo a procédé quand même à la... Et au cinquième recensement général de la population et de l'habitat, RGPH5, et cela précède quand même l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, EHCVM2, et de 2021, entre 2021 et 2022. Alors, c'est la dissémination des résultats de ces deux campagnes importantes qui a été présentée c'était le vendredi dernier.
Oui, le 13, voilà.
Le vendredi dernier au CASEF. Et cela a été fait par la secrétaire générale de la présidente de la République, la ministre docteur Sandra Johnson, avec à ses côtés le résident, le représentant résident de la Banque mondiale et celui du Fonds des Nations Unies pour la population. Et donc, c'est dire que la Banque mondiale a contribué quand même à ces deux campagnes. Alors, il faut expliquer tout de suite que l'objectif du recensement général de la population est de mettre à disposition des données actualisées, fiables, et pertinente sur les caractéristiques de la population et de l'habitat, en vue d'améliorer la planification du développement économique et social, ainsi que le suivi et évaluation des politiques et programmes. Et donc, tu as eu déjà à donner les résultats de ce recensement-là, et qui a permis également de quantifier les populations par rapport aux services sociaux, par rapport à l'éducation, par rapport à la santé. Et donc, aujourd'hui, on sait par exemple que tu as donné un chiffre, 9 Togolais sur 10 qui ont accès aux soins et aux services sociaux de base.
Surtout l'électricité.
Voilà, l'électricité, l'eau et tout ça. Ouais. Et donc, l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des populations, c'est pour permettre de disposer des données fiables et actualisées sur la pauvreté. Et donc, aujourd'hui, on connaît le taux de pauvreté de la population togolaise. Et ça permet également de faire des planifications par rapport aux programmes et projets, et surtout économiques et sociaux. Et aujourd'hui, on a une idée, si on a pu faire pendant le coronavirus, le porte-monnaie.
Vous voulez parler de
Novici. Oui. Si on a pu faire tout ça, c'est parce qu'il y a des données qui permettent de savoir quelle cible on doit toucher par rapport à ce programme Novici. Et aujourd'hui, il y a également l'assurance maladie universelle. Et on sait qu'il y a des populations qui ne sont pas capables de payer quand même les 20% même qu'on demande aux assurés. Et donc, comment l'État va pouvoir aider les couches vulnérables par rapport à cette assurance maladie universelle. Et tout ça, c'est parce que nous avons aujourd'hui des données fiables qui nous permettent de programmer tout ceci.
D'accord. Alors, Jean-Baptiste, c'est vrai qu'en matière d'accès aux services sociaux de base, les résultats indiquent une amélioration avec 83% de ménages ayant accès à une source d'eau améliorée. Alors, quand on prend ce résultat aujourd'hui, on pourra dire quand même que c'est il y a des efforts qui sont faits là.
Des efforts sur papier.
Pardon?
Des efforts sur papier. Ah, en tout cas.
Vous pensez que ça ne reflète pas la réalité?
Ça, ces chiffres sont très loin de la réalité. Bon, toi-même.
Non, mais c'est une enquête scientifique.
Enquête scientifique, toi-même, tu consens ça. Est-ce que autour de toi, les enquêtes, là, quand on sort les résultats, toi-même, en tant que citoyen togolais, tu viens à Lomé, et dans ta maison ou autour de toi, tu peux voir si réellement ces enquêtes reflètent la réalité que nous vivons autour de nous. C'est ça. C'est d'abord ça. S'il y a amélioration des conditions de vie des populations, ça doit se sentir autour de nous. Mais si on sort des rapports, alors que chaque jour que Dieu fait, le cri des populations ne fait qu'augmenter, alors il y a de quoi s'interroger sur la véracité de ces chiffres, sur la quintessence de ces chiffres. C'est ça la question.
Alors, vous pensez que ces chiffres ne reflètent pas la réalité et que quand on parle de 83% qui ont accès aux services sociaux de base, ce n'est pas vrai?
De quel service parle-t-on? De quel service parle-t-on? C'est ça la réalité.
D'accord. Alors, Isidore, c'est vrai qu'il y a encore autre chose. On prend l'accès à l'électricité. Et il s'établit à 70,3% des ménages avec une proportion de 9 ménages sur 10 en milieu urbain contre 5 ménages sur 10 en milieu rural.
Ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Avec les toits d'araignées qui jonchent nos rues, on dit qu'on a accès à 9 Togolais sur 10 ont accès à l'électricité.
En milieu urbain.
En milieu urbain, ça ne change pas. Aller à Diablé, milieu urbain, non? Aller à, comment appelle-t-on, à Gbalepédo, aller à, vers, vers Balibé, à Didogomé. Mais il y a plein de toiles derrière. Au lieu de faire des extensions.
En bonnet du forme.
En bonnet du forme. Mais c'est des toiles d'araignée que nous avons partout. Mais nos villes ne sont pas urbanisées, ne sont pas viables. Prenez Adedikopé, prenez Zangueda, prenez même Béissi. Mais on parle de quoi? Assez à l'eau potable? Combien de robinets ne sont pas desservis? Vous ouvrez, c'est l'air qui sort. Et on dit qu'on a assez à l'eau potable à 80 quelques pourcents.
83%.
83%. Je me pose des questions. Allez dire ça, hein. Dans des maisons, les gens vont demander, mais où est-ce qu'on a mené cette enquête? Est-ce que nous vivons dans le même, sur le même territoire? Mais c'est difficilement que les gens qui sont des abonnés
de la TDE.
À la TDE arrivent à avoir l'eau potable. Ça, on prend seulement le cas de Lomé.
Alors, finalement, c'est quoi le souci? Mais si tant est que c'est une enquête scientifique, des gens sont partis sur le terrain, ils ont vérifié les faits, et avant quand même de faire sortir ces résultats, le souci est que, déjà, tel que vous le dites, c'est comme s'il y a des disparités entre la réalité et aussi ce qui a été donné comme résultat. Alors, finalement, c'est quoi le souci?
Le souci, c'est peut-être une enquête de qualité. Une enquête quantitative et non qualitative et non quantitative. Puisque moi, je ne me sens pas impliqué. Peut-être l'échantillonnage qu'ils ont pris, peut-être ils sont circulés dans les maisons des clos bornés, qui ont des tanks, qui ont des réservoirs d'eau, qui ont des suppresseurs pour pouvoir pomper l'eau. Nous, on n'en avons pas. Allez ici, mais circuler dans les quartiers ici, combien de robinets fonctionnent? Alors qu'à chaque fois, tu as payé 2700
50
minimum, ça. Hein.
Oui, c'est pour les 10 mètres cubes d'eau. Non, non, pas, oui, Eric, tu permets, plaît, oui. Tu permets, Eric, est-ce, que, oui. Est-ce qu'il a... Oui, Eric, non, je te donne la parole, on laisse Eric, on laisse Isidore terminer, s'il te plaît, et on laisse Isidore terminer, oui, Isidore, s'il te plaît, vas-y.
Ça, c'est la triste réalité que nous vivons, et on ne peut pas nous dire le contraire, c'est ce que nous vivons quotidiennement. On parle de soins de base. Combien de Togolais arrivent à se soigner quand ils vont dans un dispensaire, ne serait-ce que pour palu, minimum, vous allez dépenser 20 000 francs pour bénéficier d'un soin de qualité. Combien de Togolais ont ce pouvoir d'achat de se soigner à 20 000 francs? Les services, on se souvient, et comme si c'était hier, quand on était à l'école, au moins on a les carnets de les cahiers de pas de correspondance de pour aller dans les dispensaires. Quand vous êtes malade, on vous donne moins le premier soin.
Ça n'existe plus,
c'est ça. Ça n'existe plus.
D'accord.
Alors oui, les bons indigents, les bons indigents que nous avions.
D'accord. Eric, vous voulez faire une précision, c'est ça?
La précision, c'est qu'il faut quand même. Lire un peu ce rapport-là qui parle de sources d'eau améliorées. Ça ne veut pas dire que 83% des Togolais ont un robinet chez eux à la maison. C'est ce que je voulais apporter comme précision.
Ah, bon, okay. L'eau améliorée, donc il y a une différence entre l'eau améliorée et l'eau potable qui est indiqué ça, par... C'est... Mais c'est ça qu'on nous demande. Il faut servir l'eau potable à la population et non l'eau améliorée.
Ce qui se passe
le pure water, c'est l'eau améliorée, non?
Bien sûr.
Et c'est de l'eau potable?
Mais on est en train de parler de quoi? On dit avoir accès à l'eau
potable,
potable, hein. Potable, pas amélioré.
Qui a parlé d'eau potable? Qui a parlé d'eau?
Non, les indicateurs, c'est l'eau potable.
Excusez-moi.
Les indicateurs scientifiques parlent d'eau potable et non d'eau améliorée.
Isidore, le rapport est en face de toi.
Oui, en fait, le rapport dit, en matière d'accès aux services sociaux de base, les résultats indiquent une amélioration avec 83% de ménages ayant accès à une source d'eau améliorée.
Une source d'eau améliorée. Mais c'est du syllogisme.
Ça signifie quoi?
Ça signifie quoi?
Dans l'eau améliorée.
De toute façon,
quel vocabulaire?
Je pense qu'il faut relire. Il faut relire le rapport.
Le rapport pour mieux
comprendre.
D'abord, toi tu ne fais que relayer ce qu'on a dit. Mais je conteste le vocable l'eau améliorée.
C'est ce que vous vous dites. Vous contestez plutôt cela.
Si les gens peuvent aller chercher de l'eau quelque part et l'utiliser. Parce que lorsqu'on parlera d'eau potable, ça veut dire qu'on est sûr que l'eau qui est distribuée est véritablement potable. Voilà de quoi il s'agit. Moi, je dis tout simplement que l'analyse que faisait Isidore en parlant de robinet n'était pas juste par rapport au rapport qu'il y a. C'est tout.
Bon, d'accord. J'ai compris que les 83% là n'ont pas accès à l'eau potable.
Oh là là.
Oui, moi je parle d'eau potable.
Non mais bon, voilà,
parce que l'eau potable qu'on nous sert, c'est l'eau de robinet. Même si d'autres achètent de l'eau depuis la France et qu'ils boivent.
D'accord, on va écouter Adam aussi. Jusque là, il ne s'est pas prononcé sur le sujet. Adam, et finalement, qu'est-ce que vous pensez alors de ce rapport?
Non, vous savez, je pense que dans tout pays, hein, pour son développement, on a besoin des données fiables et actuelles. Des données fiables et actuelles qui puissent permettre d'orienter, en tout cas le développement, et d'orienter les aspects sur lesquels il faudrait davantage investir et d'avoir ces données-là pour la bonne gouvernance, grosso modo. Je pense que c'est vrai, vu de regard, c'est vrai lorsqu'on parle d'enquête, naturellement, c'est l'enquête quantitative et qualitative qui sont donc retenus. Et c'est la somme de tout ceci qui permet véritablement donc de dégager les objectifs, qui permet véritablement de dégager ce qu'on a sous la main en matière de chiffres. Mais au sein de la population, c'est bien vrai, lorsque nous prenons, il y a des individualités, et lorsque vous prenez la population, et surtout lorsque vous n'avez pas ces chiffres-là, vous risquerez de mal orienter.
Et de naviguer à vue.
Tout à fait. Et même de faire passer la population d'une étape de pauvreté à misère. Voilà pourquoi il faut réactualiser, avoir cette donnée-là pour le faire. Et je pense que c'est après une enquête, nous avons vu comment l'enquête a été menée. D'ailleurs, il nous est très difficile de pouvoir donc comparer ce qui a été mené, notamment il y a la quantitative qui a été prise en compte, la quantitative également, par rapport à nos vues personnelles auxquelles nous n'avons pas de chiffres. Donc, à partir du moment où nous n'avons pas de chiffres, c'est vrai que nos opinions ne peuvent pas passer par devant ce qu'on a comme chiffres. Et je ne crois pas que quelque chose soit inventé. On n'a plus le temps depuis que cette enquête-là est terminée. C'est vrai, nous le disons 8 millions. Mais après cet atelier-là, on dit véritablement la population togolaise est de telle. Voilà ce qui a été fait pendant tel moment. Mais nous savons véritablement qu'il y a des disparités. Et justement, ces disparités-là, le gouvernement même ne les ignore pas. Donc, je pense que nous avons nos opinions, mais je pense que nous devons nous en tenir aux chiffres. Et ces chiffres-là, tenu compte des deux enquêtes qui permettent véritablement donc, de pouvoir dégager ce qui est bon et d'orienter la politique de développement du pays.
D'accord. Alors,
je ne voulais pas aller sur ce terrain parce que oui. Tant que vous n'avez pas d'autres indicateurs, vous ne pouvez pas dire que ce
qui a été fait... On ne peut qu'avancer que des opinions.
Est faux. Là, c'est des opinions personnelles que nous avançons.
Oui, mais justement...
Bien sûr. Tu as mené quelle enquête sur quel facteur Dis-moi.
Non. Dis-moi.
Tu as mené tes enquêtes où?
Je n'ai pas mené d'enquête.
Mais pourquoi tu contredis quelque chose qui n'a pas de chiffres.
Oui, je n'ai pas de chiffres.
Oui.
Si autour de toi, on parle. On donne les résultats d'une enquête. Mais toi, autour de toi, tu circules dans plusieurs ménages. Et tu vois que...
Mais je ne peux pas les prendre comme vérité absolue. Mais
quand même, c'est qu'il y a des disparités.
Il y a des disparités. Le gouvernement n'ignore pas ces disparités-là.
S'il vous plaît, on va quitter le sujet.
Il n'ignore pas ces disparités.
C'est intéressant.
Et selon toujours là.
Mais on va quitter. On va s'intéresser au sénatorial de février 2025. Vous écrivez à la une de votre journal, à Tu-Express ce matin, élection sénatoriale février 2025, le niet de l'opposition. Mise en œuvre des recommandations de la CVG. Enfin, là, c'est autre chose, bien sûr. Mais ce qui est sûr, vous parlez alors du niet, alors de l'opposition par rapport au sénatorial.
Oui, depuis l'annonce de la tenue de ces élections sénatoriales, mais des partis sont sortis de leur gant, notamment Brigitte Adjamagbo, qui est
DMP.
La DMP, et tout dernièrement, c'est Jean-Pierre Favre de l'UFC qui est sorti. Qui est sorti, il dit que non.
Il y a des fonds touchement à mon constitution.
À tout dernièrement. Oui. Bon, voilà. Voilà, qui ont opposé un non catégorique à la tenue de ces élections, qui ne vont pas y participer. Et ils ont donné toute une litanie de motivation. Et on parle d'incohérence, de dysfonctionnement, d'illégitimité, des mascarades électorales, et entre autres la composition antidémocratique de l'organe de gestion des élections.
Mais est-ce que tout cela, ce ne sont pas que des mots politiques?
Non, ce n'est pas des mots politiques. Ce n'est pas des mots politiques. Et que quand, si vous avez eu une petite formation en gouvernance électorale sous la formation Bridge, vous saurez que tout ça là c'est pertinent, et même l'État le sait, et tout ça là c'est pour pousser les gens à aller dans la 5e République. Et ils ont aussi dit que mais ils contestent le mode de composition même du Sénat, dont on aura des sénateurs élus et des sénateurs nommés.
Mais c'est ce que la Constitution prévoit, c'est ce que la Constitution dit.
C'est ça le drame. Hein? C'est le péché originel même de cette 5e République. Et pire encore, mais comme ils auront les mêmes avantages, les mêmes prérogatives. Mais on ne peut pas nommer quelqu'un qui aura les mêmes avantages que quelqu'un qui est élu. Le Sénat, c'est la chambre haute du Parlement. Pourquoi on ne nomme pas les députés et on va nommer les sénateurs? Mais autant de questions que nous devons nous poser. Et c'est légitime de se poser ces questions pour que la République puisse avancer.
Mais est-ce que là, on ne parle pas aussi de transfert de légitimité, en ce sens que déjà la personne qui nomme a été élue?
Non, pas du tout. Pas du tout. Il s'est arrogé ce droit de nommer. Et ça ne répond à aucun critère démocratique. Ça ne répond à aucun critère démocratique. Il faut qu'on ait le courage de poser les vraies questions pour que soit nous sommes dans une république ou nous sommes dans une monarchie. De deux choses l'une. On tend vers une monarchie.
D'accord. Eric, c'est vrai que déjà à l'annonce de ces élections sénatoriales, on a écouté la classe de l'opposition. Il y a des gens quand même qui ont refusé de s'associer à ces élections sénatoriales. Mais il y a également parmi cette classe de l'opposition un certain maître Tassona qui dit plutôt que non, il faudrait qu'on nomme plutôt le un tiers de ces sénateurs au sein de l'opposition. Est-ce que vous arrivez à les comprendre?
Dans sa logique.
Ceux qui disent qu'ils ne sont pas concernés par la constitution de la 5e République sont dans leur logique de boycotter tout ce qui aura trait à cette constitution, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Et aujourd'hui, je pense que la constitution dit qu'il faut élire un certain nombre de sénateurs. Et le reste doit être
nommé.
Et donc, je pense que c'est dans cela que Maître Tshassouma dit que s'il faut nommer le tiers des sénateurs, si le président du Conseil qui doit nommer les sénateurs, s'il doit le faire,
on en est déjà
qu'il
là.
Le fasse, qu'il le fasse avec des sénateurs de l'opposition. Cela va permettre d'avoir également des sénateurs de l'opposition au Parlement. Ça veut dire également, vous savez, aujourd'hui, le corps électoral pour ces élections sénatoriales est composé de conseillers municipaux et de conseillers régionaux. Et donc, il y a encore une possibilité électeurs. Pour l'opposition qui a des conseillers municipaux de pouvoir aussi avoir des sénateurs.
Mais combien?
Et donc,
combien?
Même si c'est
deux. Jean-Pierre Fabre a annoncé tout récemment.
Pour moi, je pense que ce qui se passait à l'Assemblée nationale, qui est devenu aujourd'hui un parlement avec une chambre haute et une chambre basse, ce qui se passait là, où il n'y a pas de minorité de blocage, où les lois passaient comme une lettre à la poste, on peut avoir cette minorité de blocage au Sénat. C'est pour ça que Maître Tshassouma est en train de demander qu'on nomme également des sénateurs au sein de l'opposition.
Mais maintenant, la raison, et Jean-Pierre Fabre donnait cette raison tout récemment, le samedi dernier, c'est parce que le corps électoral est déjà composé de pratiquement 95% du parti au pouvoir. Et, c'est-à-dire, quand on prend les conseillers régionaux et quand on prend aussi les conseillers municipaux, pratiquement, ceux qui sont là-bas, c'est du parti au pouvoir. Et Adam?
Oui, ce qu'on pourrait avoir naturellement, c'est justement avoir peut-être une minorité de propositions. Parce que tel que le schéma est constitué et que nous voyons que la quasi-majorité des conseillers municipaux et régionaux sont de la mouvance présidentielle, il va de soi que la quasi-majorité du Sénat soit composée, en tout cas du parti majoritaire. Donc, de toute évidence, il serait très difficile que l'on ait en tout cas une majorité.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur, allô?
Bonjour Pascal.
Bonjour Patrick, comment vous allez?
Bien, et vous?
Ça va aussi, par la grâce de Dieu.
Merci.
Allez-y.
Je salue tout le monde. Hein.
Oui, d'accord, tout le monde vous salue.
Voilà. Tout d'abord, j'aimerais dire à M. Isidore et pas Eric et l'autre là, le troisième qui est là.
Jean-Baptiste.
En fait, ils ont raison, hein, quand on parle du rapport de l'eau, là. Au fait, quand on parle de l'eau améliorée et de l'eau potable, ce ne sont que des synonymes. L'eau améliorée sert à faire quoi? Être utilisée et être consommée. Pareil pour l'eau potable, être utilisée et être consommée. Je ne vois pas pourquoi on va demander si c'est pour l'eau améliorée ou si c'est pour l'eau potable. Vous savez, c'est l'absence de la TDE qui pousse les gens à faire des forages. Si la TDE était dans toutes les zones, c'est moins de dépenses aussi que d'aller dépenser 500 000 pour le moins ça. Pour ceux qui le font, ça n'est pas dans les normes, 500 000. Si tu veux faire même un bon forage, tu n'es pas en bas de 1 500 000, voire 2, 3. Hein. C'est l'absence de la TDE qui fait que les gens sont obligés de faire des forages. Et là, on va parler d'eau potable, c'est l'erreur à qui ? Ce n'est pas à la population. Si la TDE n'est pas là, mais on a besoin d'utiliser l'eau, quoi est-ce que nous allons faire pour que cette eau-là vienne ? Mais c'est de faire à notre manière. C'est ça même qui a poussé même le ministre Yac à tout temps à sortir un communiqué concernant les forages anarchiques qui se creusent un peu partout. Vous voyez un peu, si la TDE était présente là, est-ce que les gens s'aventureront à faire des trucs là? Pareil pour la CET. Ben, la CET, l'absence de la CET qui fait que les gens sont obligés de faire des araignées. Sinon, qui veut dépenser beaucoup de mille pour aller acheter le câble tiré et avoir la baisse même que d'avoir, si la CET est présente, que d'avoir la CET chez soi? C'est ça. Eric, quand l'autre là, et Jean-Baptiste et Eric, ils y ont parlé là, je pense qu'ils étaient sur la bonne voie, mais c'est comme si vous essayez de les embrouiller un tout petit peu. Je ne dis pas que votre développeur n'est pas bon, mais quand ils parlent, il faut les laisser, donc à finir pour voir la fin, quoi. Merci, bonne émission.
D'accord, merci beaucoup, Patrick, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 115. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est M. Nyamavo.
Oui, Nyamavo.
Allez-y.
Oui, carton vert à Isidore et son ami. Et je voulais partager ceci.
Oui, rapidement.
Les étrangers qui ont fait des forages, ils donnent de l'eau gratuitement. À notre grande surprise, la mairie amène une facture de 100 000 francs. Ils ont dit aux riverains que bon, ok, on vous bloque. Parce que nous ne pouvons pas payer les factures pour l'eau qu'on vous donne. Et on vient nous donner les factures. Une fois la mairie passait pour leur demander encore qu'ils n'ont pas demandé de fermer. Je n'aime pas vous le robinet. Quand vous donnez les factures, ils sont dans leur droit de fermer. Ils se sont tournés vers moi. Je dis, bon, allons comprendre. Vous allez m'aider à comprendre ça. Comment quelqu'un, un étranger, donne de l'eau à votre population? Vous allez lui donner des factures parce que de 5 heures à 8 heures, il donne de l'eau. Je ne sais pas si potable ou bien. Oui, et c'est ce que les gens disent. L'eau potable est une eau qui a moins de risques de danger. Hein? L'eau claire n'est pas potable. L'eau dont l'autre la donne, là, l'ami de Isidore, là, celui qui critique les gens. Là. L'eau dont il donne que l'eau de qualité vient quoi là? C'est des eaux dangereuses. C'est l'eau potable qu'on voit que ça présente moins de risques. On ne tourne même pas. Et les étrangers nous donnent les zones de forage, les mairies se donnent ce plaisir d'aller fermer ça. Vous voyez, par rapport à la politique, un plat de salade est un plat de salade. On va continuer par critiquer, on ne va pas aboutir. Comment quelqu'un va aller demander qu'on lui donne encore les sénats? Hein? Donc, c'est pas logique. Hein? Donc, laissons l'opposition faire son travail, qui ne participe pas. Qu'on laisse le pouvoir travailler pour qu'on voit là où ils vont.
D'accord. Merci beaucoup, M. Nyamavo, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Également, vous pouvez nous écrire sur 90, 45, 78, 57. Allô?
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Oui, très bien.
C'est Pélé.
Oui, c'est Pélé.
Allez-y.
Ok, bon, pour le drame à Gwezongo, je pense que c'est une enquête de plus. Et nous allons maintenant faire un exercice avec aussi les journalistes qui ont le quatrième pouvoir de compter le nombre d'enquêtes qui est dans les tiroirs du président Faure Gnassingbé depuis son accession au pouvoir, pour voir le nombre d'enquêtes qui sont dans les tiroirs. Maintenant, ce qui concerne les élections sénatoriales, je pense qu'on dit chez nous que n'a de toi ou n'a pas tort ou non. Je pense que le pouvoir est libre d'aller à ces élections sénatoriales-là. Il a le choix. Il n'a qu'à le faire ça. Il a 95%. Et Faure Gnassingbé, on l'a dit, que toutes les institutions sont dans ses mains. Si c'est ces élections sénatoriales-là qui peuvent lui permettre à construire des échangeurs au détriment de Pasteur, comme il démontre, parce que les élèves, quand on avait installé ces Pasteur-là, les élèves ont compris que le Togo aussi a un autre échangeur. Donc, voilà, c'est ça qui s'effondre. Donc, je pense que pour ces élections sénatoriales-là, bon, parce que ce n'est pas l'opposition n'a qu'une marge de manœuvre à ce que le président Faure va les nommer. Si c'est le président Faure qui va les nommer pour qu'ils vont au garage, bon vent. Merci.
D'accord, merci beaucoup, Pélé, pour votre intervention. Nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission.
Allô? Bonjour.
Bonjour, madame Essie, bonjour.
Oui, c'est
ici. Allez-y.
J'ai écouté tout le monde.
Oui.
Et puis, voilà. 60 ans de règne sans partage, on n'a pas de l'eau potable dans la capitale déjà, pour rêver en avoir à 10 km, 20 km, tout ça là. Et maintenant, c'est les étrangers, les Maliens, les Sahéliens qui viennent nous installer des forages. Et maintenant, je viens d'apprendre qu'ils sont en train de bloquer, de vouloir se tirer des sous encore. Vous avez vu, quand on parle d'alternance, là, 5 ans, tous les 5 ans, vous êtes là à penser qu'on rigole, si on peut le dire. Regardez l'histoire du pont. La dame qui a géré les TP, les dames gèrent comme les hommes. Elles nous gèrent autant que les hommes. Pareil, quoi. Qu'on demande des comptes à cette dame. Elle nous a jamais fait de bilan avant de passer la main. Je ne sais pas où elle est partie, mais elle nous a jamais fait de bilan de sa gouvernance des routes. Combien elle a bitumé un kilomètre? Combien de milliards ça nous a coûté? Et combien de kilomètres elle a bitumé? Elle a mis des pavés. Les pavés sont moins chers que comment on appelle ça? Que le goudron.
Que le goudron?
Oui. Et puis
le
voilà,
bitume, vous voulez dire.
Il faut qu'elle nous rende compte. Si on doit faire, on doit construire avec 10 000 francs et il met 100 francs dedans pour mettre les 9 900 dans la poche, il faut qu'il rende compte. Et personne ne demande la démission du gouvernement. Il faut que vous appreniez à réagir comme ça.
D'accord.
Il faut demander simplement la démission du gouvernement. Ça va, 60 ans.
Merci.
De règne sans partage, sans développement.
Merci beaucoup, madame Essie.
Merci
beaucoup, madame Essie. Madame Essie, c'est la dernière auditrice pour le compte à l'heure de cette émission. Je lis rapidement cette réaction d'un auditeur aussi. C'est Modeste de Paris. Concernant le drame de cette passerelle d'Agouez, j'ai appris sur une radio sœur ce matin que le patron de la société qu'appartient la Citène est arrêté et le maître chantier est convoqué. Vraiment, notre pays nous met de la honte. Concernant le recensement, les chiffres qu'il nous donne ne nous fait ni chaud ni froid car on est habitué à ces chiffres fabriqués. Bonne émission à vous, c'est Modeste de Paris. Et beaucoup de gens nous ont écrit cette information que Modeste a donnée. On va fouiller également pour savoir exactement de quoi il en est. Rapidement, nous allons revenir en plateau, faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Adam, 30 secondes.
Non, bon, moi, mon mot de fin, je profite de l'occasion pour féliciter l'artiste plasticien Adoté Ekwe, qui a exposé à Paris à la Biennale internationale d'Abidjan. C'est un artiste qui fait, il était aussi en Italie. je pense que c'est quelqu'un à encourager.
D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Eric, 30 secondes.
Oui, je pense que nous allons continuer par fouiller pour savoir ce qu'on appelle une eau améliorée, la différence qu'il y a avec une eau potable et une eau pure. À partir de ce moment, chacun fera une idée sur le rapport qui a été donné. Parce que ça porte un peu à confusion. Mais je dis à M. Nyamavor, je ne viens pas ici pour insulter qui que ce soit. Il dit, Eric qui insulte les gens. Je ne viens pas pour insulter. Mais je demande tout simplement, quand vous avez des analyses à faire, faites vos analyses, mais ne vous vous en prenez pas à moi. Moi, je fais mes analyses par rapport aux données que j'ai. Et le plus souvent, c'est des données scientifiques. Si vous avez vos opinions, donnez vos opinions tout court.
D'accord, merci Eric. Jean-Baptiste, 30 secondes.
Oui, bon, je crois que je reviens sur l'enquête que le gouvernement dit avoir ouvrir pour situer les responsabilités, telles que les auditeurs l'ont dit. Au Togo, on est habitué à l'ouverture des enquêtes qui ne se ferment jamais. Les preuves sont là. 2008... Tuché Agbobli, qu'on a vu assassiner Asarakawa, les enquêtes ont été ouvertes, non clôturées. Et les enfants qui ont été assassinés à Dapaon, Sinalengue et autres, on a ouvert des enquêtes, on n'a pas vu des conclusions. Et la liste est non exhaustive. Revenant aux élections sénatoriales, je crois que l'opposition a joué sa partition parce qu'on sait que le corps électoral n'est pas en sa faveur et ce n'est pas Fonia Singbe qui viendra nommer ses opposants au Sénat.
Merci. Voilà, Isidore, 30 secondes.
Non, juste pour attirer l'attention des promoteurs de l'événement Caliente qui se passe, peut-être on ne va plus revenir, on ne sait pas trop sur cet événement qui se passe au niveau de Palais, qu'on appelle-t-on
Colombe
de la paix. Puisqu'on y est, les gens peuvent changer la passerelle en podium ou je ne sais quoi, ou tribune, et vont monter là-dessus. Il faut qu'on puisse déjà anticiper sur cet événement, que ça ne s'écroule pas.
D'accord, merci. Merci beaucoup, Isidore Akolo.
J'attire l'attention de la mairie.
D'accord, merci d'avoir attiré l'attention de la mairie. Merci, Isidore Akolo. Merci, Adam Adronou. Merci, Eric Johnson. Jean-Baptiste Atisso, merci à vous pour votre participation à cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Thomas Itek aussi d'ATV qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Exceptionnellement, demain mercredi, nous allons animer une émission délocalisée. Ce serait une émission la radio du littoral avec le projet Waka Resip. Et ce serait bien sûr demain mercredi. Nous serons dans une localité que nous allons dévoiler sur le terrain demain, dès que nous serons bien sûr sur le terrain. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Au revoir.
Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Tango, très beau. Sur la photo, c'était parfait.